c'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona.
Dreyfus est innocent, je le jure. J'y engage mon honneur. À cette heure solennelle, devant ce tribunal qui représente la justice humaine, devant vous, messieurs les jurés, qui êtes l'émanation même de la nation, devant la France, devant le monde entier, je jure que Dreyfus est innocent! Tout semble être contre moi. Les deux chambres, le pouvoir civil, le pouvoir militaire, les journaux à grand tirage, l'opinion publique, qu'ils ont empoisonné. Et je n'ai pour moi que l'idée, un idéal de vérité et de justice. Je n'ai pas voulu que mon pays resta dans le mensonge et dans l'injustice. On peut me frapper ici. Un jour, la France me remerciera. La France me remerciera d'avoir aidé à sauver son honneur.
L'excellente interprétation par le comédien Jean-Claude Drouot qui interprète Émile Zola dans ce téléfilm. Rappelez-vous, il a une vingtaine d'années ce téléfilm. C'était en 1995, un téléfilm en deux parties réalisé par Yves Boisset. Le scénario signé Georges Semprin d'après le livre de Jean-Denis Bredin sur l'affaire Dreyfus. Et l'actualité de Dreyfus, aujourd'hui, eh bien, c'est un musée installé au sein de la maison Zola. On en parle ce matin dans ces nouveaux Ça m'intéresse, en compagnie de Joël Rochard, qui est le président du club littéraire des Amis d'Émile Zola, trésorier de l'association Maison Zola, Musée Dreyfus, également haut fonctionnaire et président du Cercle Bernard Lazare. Joël Rochard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors oui, Dreyfus, l'actualité, on en parle avec le film de Roman Polanski qui vient de sortir. Et puis c'est ce musée, le musée Dreyfus, qui va ouvrir prochainement. Joël Rochard, racontez-nous l'épopée de ce musée, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on en parle.
Alors, il faut commencer par la maison de Zola. Zola a eu une vie de bohème, il a été journaliste, il devient romancier, il trouve le succès avec l'Assommoir, et avec les droits d'auteur de l'Assommoir, il achète une maison à Médan, près de la Seine, en aval de Poissy. C'était pratique pour lui, il habitait le quartier de l'Europe, il prenait le train à Saint-Lazare et arrivait à 400 mètres de sa maison. Il y recevra... C'était pas une maison de week-end, c'était plutôt une maison pour prendre ses quartiers d'été. Il y allait de juin à septembre. Il y reçoit ses copains, c'est les fameuses soirées de Médan. Et puis, le succès continuant, il trouve que sa maison est petite, il va l'agrandir et la flanquer de deux tours. Et vous saurez comment elles ont été financées. Une tour s'appelle la tour Nana et l'autre la tour Germinal. Mmh. Il va quitter la maison à l'automne 1902, le 28 septembre, il meurt dans la nuit qui suit, un accident d'oxyde de carbone, assassinat ou accident, nous ne saurons jamais. Mmh. Et Alexandrine, sa veuve, qui avait eu un enfant, l'avait abandonné, etc., sachant pas quoi faire de la maison, la donne à l'instance publique, Hôpitaux de Paris. Elle la donne en 1905, en disant il faut faire une pouponnière. Et c'est ce que va faire l'instance publique pendant des décennies, mais on ne fait plus de pédiatrie de cette façon-là. Une maison de maître transformée en hôpital, ça ne correspondait pas. Mm-hmm. Et l'assistance publique n'en s'en occupait pas beaucoup. En 1983, la maison de Zola est inscrite à l'inventaire, donc elle est protégée contre un promoteur, on garde le souvenir de Zola. Dans le même temps, tous les ans, il y avait ce qu'on appelle le pèlerinage de Médan. Tous les ans, le premier dimanche d'octobre, les admirateurs de Zola, et donc les membres de la Société littéraire des Amis d'Émile Zola, organisent un pèlerinage où prennent la parole un universitaire qui a particulièrement étudié Zola, une personnalité, un romancier, un ministre, un président de la République. Oui. Donc il y a toujours cet événement annuel dans le jardin de Zola. Et puis l'assistance publique ne s'occupant plus vraiment de la maison, elle commençait à plus être en très bon état. Et le président Mitterrand, qui n'était d'ailleurs plus président, c'était en 1995, le signale à Pierre Berger. Pierre Berger, homme d'affaires, mais aussi mécène et homme militant. Et Pierre Berger va voir la maison, dit qu'il faut faire quelque chose. Et en 1996, il crée une association pour reprendre la maison de la Zola, la remettre en état. Et découvre que Zola, c'est Jacques, et on ne peut pas dissocier Zola de Dreyfus, et qu'il n'y a pas de musée Dreyfus en France, et qu'il faut faire un musée, et il pense qu'il faut le faire à côté de la maison de Zola.
Et ça, c'est il y a 20 ans, donc, hein, ça, une vingtaine d'années à peu près.
C'était entre 1996 et 2004.
Alors qu'est-ce qui a fait?
Et en 2004, l'association change de nom et s'appelle Maison de Zola, Musée Dreyfus. Mmh. Voilà. Alors, la maison de Zola est rénovée par l'association. C'est une rénovation très complète, coûteuse. Il a fallu démonter les vitraux pour les rénover petit morceau par petit morceau, retrouver des papiers peints de l'époque, etc. Ça a pris beaucoup d'années. Avec les nouvelles règles, il a fallu rajouter un ascenseur. Mmh. Et la maison de Zola a été inaugurée en 2016 par le président Hollande. Et quand il l'a inaugurée, le président Hollande a dit... Je ne vais pas citer exactement son discours. Mm-hmm. Il a expliqué en quoi Zola, Jacques, c'était important dans la vie de la République. Mais il a aussi dit, mais il ne faut pas s'arrêter. Votre musée Dreyfus, alors, il faut le continuer. Ouais. En 2018, c'est le président Macron qui annonce au dîner du CRIF en février 2018, il y aura bientôt un musée Dreyfus. Alors, il ne suffit pas de le dire, il faut le faire.
Il faut le réaliser, parce que qui dit musée, dit objet. Objet ayant peut-être appartenu à Dreyfus, justement. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce musée?
Alors, un musée c'est un bâtiment, ce sont des collections, et c'est une façon de présenter, d'animer le musée. Alors, le bâtiment, nous avons pensé une époque construire dans le jardin un bâtiment neuf avec un grand architecte. C'était un peu long. Et donc, il y a un bâtiment annexe de la maison de Zola, bâtiment qui a servi d'hôpital pendant la guerre de 14 et qui est appelé Lazaret, que nous sommes en train de transformer. Donc, il y a un projet technique de bâtiment, couverture, isolation, pose d'un ascenseur à nouveau pour les personnes à mobilité réduite. Et il y a des collections. Il y a une politique depuis 25 ans de l'association Maison de Zola, Musée Dreyfus, mais aussi de l'association du Musée Zola, qui est une autre association, qui ont racheté toutes sortes de documents, obtenu des dons. Donc nous avons des collections. Je ne dirais pas que nous les avons toutes, parce qu'il y a d'autres endroits en France où il y a des collections Dreyfus. Mmh. Il y a le musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui en a pas mal. La Cour de cassation, je ne vais pas citer tout le monde, mais nous en avons déjà une bonne part.
Voilà. Donc pour avoir une bonne idée d'Alfred Dreyfus et de ce qu'il a laissé, il faut un petit peu se répartir sur Paris, aller voir plusieurs institutions. Tout ne sera pas concentré dans le musée.
Ça, c'est pour les chercheurs. Les chercheurs vont retrouver dans les différents endroits. Notre but, c'est le grand public et les jeunes. Alors, le musée, c'est Alfred Dreyfus, la personne, mais c'est aussi l'affaire Dreyfus, un grand événement dans la République. Et donc, il y a plusieurs idées. Il y a l'engagement d'Émile Zola, puisque le musée est à côté de la maison d'Émile Zola. Il y a l'erreur judiciaire, et qui va très loin. C'est un dossier qui est vide de preuves. C'est des faux documents, ce qu'on appelait le faux patriotique. C'est le clivage entre le pouvoir et l'opinion publique. C'est aussi le rôle de la presse. Une presse qui a défendu Alfred Dreyfus avec le J'accuse de Zola, mais il faut se souvenir que J'accuse est passé dans l'aurore parce que le Figaro avec lequel travaillait Zola ne l'aurait pas publié, donc la presse était partagée.
Et puis c'est aussi l'histoire de l'antisémitisme français.
Et puis c'est l'antisémitisme qui, à l'époque, était d'une violence dont nous n'avons pas idée. Aujourd'hui, en 2019, dont nous avons une idée quand même entre 1940 et 1944,
bien sûr,
où l'antisémitisme français avec l'écusse commode de l'Allemagne a pu se déchaîner assez rapidement.
Mais voilà. À l'époque, il y avait une parole totalement libérée, une parole antisémite totalement libérée dans la presse, et ce qui a donné...
C'est une époque que nous avons du mal à nous représenter.
Oui.
Par exemple, dans la presse, il existe un hebdomadaire qui s'appelait l'Anti-Juif et qui, pendant 6 ans, a diffusé à 150 000 exemplaires. Des hebdomadaires à 150 000 exemplaires dans une France de 40 millions d'habitants.
Ouais, une propagande incessante,
antisémite. Voilà. Et aussi d'un nationalisme invraisemblable, puisque Dreyfus était né en Alsace française. Quand les Allemands annexent l'Alsace après 1870, le traité prévoit que les citoyens peuvent opter pour la nationalité française. Donc la famille Dreyfus à Mulhouse opte pour la nationalité française et la famille arrive à Paris. Et Dreyfus, à l'époque, avait 13 ans. Donc il est d'une famille tellement française qu'il ne voulait pas rester sous la règle allemande. Et c'était plus patriote que les Français. Oui. Et on va leur reprocher de ne pas être français, d'être alsacien et juif, alors qu'ils étaient plus français que les Français, puisqu'ils avaient accepté de déménager pour rester français.
C'est ça, son tort, c'était d'être alsacien, de parler allemand et d'être juif.
Les familles juives d'Alsace étaient terriblement francophones.
Oui, mais lui parlait allemand, d'ailleurs.
Il parlait allemand et parlait dialecte, mais... Dans la famille, entre les bandes de la famille, on parlait français. Et on faisait attention à ce que les enfants parlent bien français.
Oui, mais si j'insiste un peu sur la langue allemande, c'est que dans l'affaire Dreyfus, c'est une charge supplémentaire, puisqu'on l'accuse d'avoir des liens avec l'ambassade d'Allemagne. Donc on se dit, tiens, il y a une facilité de communication. Et en plus, il est juif, alsacien, donc tout est contre lui, finalement. Donc tout est dirigé vers lui. Joël Rochard, ce musée Dreyfus, vous allez le diriger plutôt vers quoi? Est-ce que vous allez le diriger vers la personne Alfred Dreyfus, plus vers une histoire de l'affaire Dreyfus ou l'histoire de l'antisémitisme?
Alors, plus vers ce coup de tonnerre dans la République. Il faut quand même savoir que la République était récente, elle n'a daté que de 1871, elle était passée à une voie près, les partis royalistes existaient encore, et donc c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre qui remet en cause différentes institutions. La justice militaire, que Clémenceau avait critiquée en disant que la musique militaire était à la musique, ce que la justice militaire était à la justice. Ça met en cause aussi le fait qu'on reconnaît une erreur dans la procédure. On sait qu'Esterhazy est coupable, et Esterhazy est innocenté par un jugement, ce qui est invraisemblable. C'est-à-dire que, sous prétexte que l'armée ne peut pas se tromper, on va maintenir l'erreur. Dreyfus obtient la cassation, obtient la révision de son procès. Il est jugé à nouveau par la justice militaire à Rennes en 1902.
Oui, il accepte la grâce.
Il n'est condamné qu'à 10 ans. La fois d'avant, c'était à perpétuité.
Oui.
Et la justice militaire n'a pas déjugé l'armée,
pas
déjugé l'état-major. C'est le président de la République qui va le gracier.
Oui.
Et c'est finalement la Cour de cassation qui va casser sans renvoi en 1906. Mmh. Donc, l'armée a maintenu l'erreur avec l'aide de la presse, avec l'aide des partis nationalistes, avec l'aide des Drumont et compagnie. Mmh. Donc, est-ce que la justice peut être dans l'erreur jusqu'à ce point-là? Est-ce que la justice peut se fonder sur des pièces qu'on ne communique pas? Est-ce que la justice peut se fonder sur des faux documents? Donc, il y a un problème terrible sur nos institutions. Et il va y avoir des conséquences. Une des conséquences va être dans la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État, dans la mesure où les partis catholiques se sont engagés contre la République au moment de la, enfin, à l'époque de l'affaire Dreyfus. Donc c'est un fait fondateur de nos institutions.
Vous restez avec nous, Joël Rochard. On va marquer une pause et puis on continue de parler de ce musée Dreyfus qui va bientôt ouvrir ses portes dans la Maison Zola. Nous sommes en compagnie de Joël Rochard qui est le trésorier de l'association Maison Zola, musée Dreyfus. À tout de suite.
Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. Et je souffre avec toi des fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Mais pourquoi fallait-il, pour t'envoyer au diable, te prendre dans les fils de ce piège effroyable? J'ai vu souvent mon père s'assombrir tout à coup quand j'évoquais l'affaire, comme on disait chez nous. Et j'ai vécu longtemps sans rompre ce silence, comme un secret pesant parfois sur la conscience. J'imaginais comment des hommes étaient capables d'arrêter l'innocent pour en faire un coupable. Il était alsacien, français, juif, capitaine, vivait parmi les siens à Paris 17e.
Yves Duteil, la voix d'Yves Duteil qui interprète cette chanson sur Dreyfus. Yves Duteil qui fait partie des descendants de l'affaire d'Alfred, pardon, Dreyfus. Alors, l'affaire Dreyfus qui a eu des conséquences en France, l'exacerbation de l'antisémitisme, la prise de conscience aussi des rôles des intellectuels qui se sont prononcés, qui ont joué un véritable rôle dans l'engagement pour la défense d'Alfred Dreyfus. Et puis, l'affaire Dreyfus est en quelque sorte aussi à l'origine de la création du sionisme et puis de la création de la Ligue pour la défense des droits de l'homme. Ce matin, nous parlons du musée Dreyfus. Il va ouvrir ses portes dans quelques temps et ce musée Dreyfus sera installé au sein de la Maison Zola. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Joël Rochard, qui est le président du club littéraire, la société littéraire des Amis d'Émile Zola, qui est trésorier également de l'association Maison Zola Musée Dreyfus. Joël Rochard, vous êtes le trésorier de cette association. Évidemment, on l'a bien compris, pour réunir toutes les collections, pour réunir tous ces objets que vous cherchez un peu à travers la France et peut-être le monde aussi, et pour faire ce musée, pour le constituer, et on a besoin d'argent. Où en sont les finances?
Alors, je ne vais pas faire la quête ce matin. Le projet du musée Dreyfus est un projet d'un peu moins de 2 millions d'euros. Un peu plus d'un million pour le bâtiment. Isolation thermique, refaire la toiture, enfin, je ne veux pas tout détailler, la réhabilitation en quelque sorte, et un peu moins d'un million pour la présentation, ce qu'on appelle la muséographie. Voilà. Alors, avec un bon dossier, bien motivé, nous avons tiré un certain nombre de sonnettes. Le musée Dreyfus, c'est un acte contre l'antisémitisme, et donc la Fondation pour le mémoire de la Shoah nous apporte une aide. Le délégué interministériel à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme nous apporte une aide. Comme c'est un musée, le ministère de la Culture nous subventionne, moyennant un certain nombre de conditions pour que nous rentrions dans le système des musées français. Nous avons une aide du ministère des Armées, non pas parce que Dreyfus était capitaine, mais le ministère des Armées, secrétariat d'État, c'était les anciens combattants, c'est la mémoire. au titre de la mémoire, nous recevons aussi une aide. Nous avons aussi une aide de la région Île-de-France, c'est important, et du département des Yvelines. Je ne cite pas tout le monde, je le reconnais. Mm-hmm. Pourquoi ces aides de collectivité territoriale sont importantes? La région Île-de-France, ce sont les lycées, et le département des Yvelines, ce sont les collèges. Mm-hmm. Voilà.
Voilà. Et bien sûr, la raison, c'est aussi pour attirer ces jeunes et pour faire connaître, et pour changer peut-être aussi les choses pour les générations à venir.
Le musée n'est pas sur le point d'ouvrir. Nous sommes en train de terminer le gros œuvre. Donc le gros œuvre sera terminé à peu près pour la fin de l'année 2019. Il faut ensuite installer la muséographie. Ce sera une muséographie de type moderne, avec des photographies, des projections, des ordinateurs qu'on peut consulter. L'époque de l'affaire Dreyfus, c'est une époque où on a déjà quelques enregistrements. Donc on pourra faire entendre la voix de certaines des personnes, pas forcément les reconstitutions comme celles que vous venez de diffuser. Mmh. Et tout cela sera installé dans le cours de l'année 2020, et nous espérons l'inaugurer à partir de l'automne 2020. Et le principe est prévu d'une inauguration par le président de la République, qui, au cours de son allocution, expliquera à quel point l'affaire Dreyfus et le J'accuse de Zola sont importants pour la République. Je dirais que c'est à partir de janvier 2021 que vos auditeurs pourront venir à Médan.
Bien, 2021, bon, ce sera un peu plus après, 125 ans après la dégradation. Hein, donc on a un compte presque rond, on va dire. Alors, Dreyfus est défendu par Émile Zola, mais avant Émile Zola, deux hommes vont avoir de l'importance dans sa défense. Il y a évidemment son frère, Mathieu Dreyfus, et qui fait appel à un ami. Et cet ami, c'est un journaliste. Ce journaliste, Bernard Lazare. Vous êtes président du Cercle Bernard Lazare. Donc nous avons Dreyfus, nous avons Zola et Lazare. Même combat, tous les trois.
Oui. Alors, Bernard Lazare est un personnage extraordinaire. Il est né à Nîmes et il est mort très jeune. Il est mort à 38 ans. Il était journaliste, un peu anarchiste, très militant. En 1894, il publie un livre, L'antisémitisme. Vous voyez, Drumont, c'était d'un côté, lui répondait d'un autre. Mm-hmm. Et c'est le moment où éclate l'affaire Dreyfus. Et Mathieu, le frère admirable, vient voir Bernard Lazare et lui dit « Écoutez, vous êtes journaliste, vous êtes militant, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Et Bernard Lazare va être le premier journaliste à brandir l'étendard de la défense du capitaine Dreyfus.
Oui.
Et il va aller assez loin, et il va aussi s'occuper d'autres thèmes d'antisémitisme. Il va aller en Roumanie, il reviendra et publiera un article sur la façon dont les juifs roumains sont malheureux et sont opprimés. Il va soutenir les Arméniens persécutés par les Turcs. Ceci avant les massacres.
Oui, c'est
donc,
ça.
Dès 1900, il dit voilà comment les Turcs traitent les Arméniens. Et il va en Russie et il allait publier un livre sur le malheur des Juifs dans la zone de résidence de l'Empire russe, mais malheureusement il meurt. Mmh. Il va mourir en 1903, c'est-à-dire qu'il meurt après le procès en révision de Rennes,
oui.
Mais il ne verra pas la cassation cassée, il ne verra pas donc Dreyfus réhabilité et proclamé innocent. Donc il a fait un combat extraordinaire sans en voir la fin.
Et finalement, comme Zola. Donc finalement, Zola et Bernard Lazare ont un devenir assez proche. Ce sont d'abord des révoltés, ce sont des épris de justice. Est-ce que Bernard Lazare a influencé Zola pour le fameux J'accuse?
Non, pas du tout. En fait, Zola avait fait avant J'accuse. J'accuse, c'est janvier 1898. En fin 1897, il a fait deux articles dans le Figaro à propos des Juifs et de l'antisémitisme. Donc Zola était sensible à l'injustice.
Auparavant.
Voilà.
Merci Joël Rochard de nous avoir parlé de ce musée Dreyfus qui va bientôt ouvrir ses portes. Vous viendrez nous en parler au moment de l'ouverture. Je rappelle que vous êtes le président de la Société littéraire des Amis d'Émile Zola, trésorier de l'association Maison Zola Musée Dreyfus et président du Cercle Bernard Lazare.
C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona.